Vous écoutez RTL.
Le 1er mars, le prix des cigarettes va augmenter, nous le prix qui diffère selon les marques. Et bien ce matin, on va essayer de comprendre la stratégie des cigaretiers dans leur guerre du prix.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Pierre Kopp.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes avocat, spécialiste du tabac, professeur à l'université Panthéon-Assas. 8 euros le paquet de Marlboro au 1er mars prochain, une hausse de 70 centimes seulement contre 1 euro en moyenne chez ses concurrents. Comment l'expliquez-vous ?
Bien, c'est simple. Certaines marques, en l'occurrence Marlboro, font le calcul suivant. Ok, on va prendre un peu moins de marge sur chaque paquet vendu, mais en revanche, vu qu'on ne répercute pas intégralement la hausse des taxes, on va vendre plus de paquets. Donc en fait, on perd à l'unité, on gagne en quantité.
Mais ils ne vont pas forcément perdre de l'argent en réduisant leur marge, par définition ?
Non, parce qu'on vendra, la baisse des ventes sera moins forte qu'elle ne pourrait l'être, donc le total de la marge restera constant, voire augmentera un peu.
Je rappelle que Marlboro, c'est 44% de part de marché, vous nous le confirmez ?
Absolument, c'est la cigarette la plus vendue en France, presque la moitié en fait du marché. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en laissant un écart entre les marques les plus chères et des marques, on va dire, d'entrée de gamme, ça permet en fait de s'adresser à l'ensemble des consommateurs et de laisser un espace entre les deux. Et
est-ce que la notion de prix rond compte-elle aussi ? Parce que même psychologiquement, on se dit qu'il y a un effet.
Ça peut surprendre, mais c'est vrai que ça joue. Et le fait d'avoir un prix pour certaines marques qui est en dessous du prix rond de 8 permet d'attirer des consommateurs qui se disent, ben voilà, je fais des économies en achetant à 7,80.
Alors, les Lucky Strike passent de 6,80 à 7,80. Un écart aussi important entre entrée de gamme et haut de gamme, c'est du jamais vu.
Oui, c'est une stratégie. Alors, ça pose effectivement la question de savoir comment est-ce que par miracle, puisque comme vous le savez, les prix sont censés être fixés par les fabricants de tabac, ils sont censés ne pas se coordonner entre eux, ils sont censés déposer leur liste de prix, et chaque année, par miracle, ils arrivent à avoir des prix parfaitement cohérents et à les augmenter tous exactement du même montant, avec une stratégie coordonnée, apparemment.
Voilà, vous parlez de miracle, donc c'est du second degré, je le précise, ça veut donc dire que ces marques qui officiellement ne doivent pas s'entendre trouvent un moyen de contourner la loi, c'est ça ?
Disons que la question est ouverte, je ne peux pas être plus affirmatif.
Il n'y a pas que Marlboro qui a décidé de mettre son paquet à 8 euros, c'est aussi le cas de Philippe Maurice, Camel, Gauloise. On se dit que pour le coup, c'est pas un hasard qu'il peut y avoir une forme d'entente à un moment ou à un autre. Et si oui, comment on fait pour lutter contre ça ?
L'autorité de la concurrence a l'air de prendre les choses extrêmement au sérieux, puisque comme vous le savez, elle a diligenté une série de perquisitions chez les principaux fabricants de tabac il y a maintenant une semaine, probablement à la recherche d'éléments qui manifesteraient l'existence d'une entente.
Pierre Kopp, est-ce que la hausse des prix est vraiment efficace et est-ce que ça fait baisser effectivement la consommation ? Puisque je rappelle que c'est officiellement ce qui nous expliquait depuis des années.
Oui, ça marche, et d'ailleurs on voit la consommation baisser, et en tout cas ça marche mieux que de laisser les prix baisser, ça c'est certain. Bon, maintenant c'est un élément d'une stratégie. Il y a le prix, il y a aussi l'accompagnement pour les gens qui veulent arrêter de fumer, éviter la publicité, éviter le placement de produits. Je répète, éviter le placement de produits. Ça, c'est tout à fait important. La question n'est pas de censurer les œuvres, bien évidemment, mais d'éviter l'introduction clandestine et payée de cigarettes dans les œuvres de fiction.
Il y a un risque de croissance du marché parallèle, c'est ce que nous disent toujours les débits de tabac.
Oui, c'est ce qu'on entend toujours, mais comme à tout risque...
Est-ce qu'on a des éléments objectifs là-dessus ? Oui. En dehors du fait qu'on connaît tous des gens qui vont acheter leurs cigarettes dans des endroits un peu bizarres.
Oui, on a deux éléments. C'est vrai que ça représente à peu près 15%, donc c'est pas de la contrefaçon, c'est bien du transfrontalier. Ouais. Et il y a deux éléments qui sont intéressants. Un, c'est que les marchands de tabac surapprovisionnent les pays frontaliers parce que précisément ils entendent répondre à l'offre de demande de gens qui habitent de l'autre côté de la frontière. Et puis il y a une solution simple, c'est un système de traçage, c'est ce qu'a réclamé la France au niveau européen, un système de traçage simple, transparent et indépendant de l'industrie du tabac qui vous permette de savoir sur le paquet de cigarettes qui sera posé devant vous d'où il vient, parce que vous savez, il n'est pas fabriqué par un contrebandier, il est fabriqué par l'industrie du tabac. Donc on a envie de savoir d'où ils viennent, quel est leur circuit, quel est leur trajet.
Une toute dernière question. Les hausses de prix vont a priori continuer pour atteindre 10 euros minimum en novembre 2020. C'est en gros ça à quoi il faut se préparer ?
Absolument.
Merci beaucoup Pierre Kopp. Je rappelle que vous êtes donc avocat spécialiste du tabac et professeur à l'université Panthéon-Assas. Bonne journée à vous.
Merci.